René Laisse. « 26 septembre 1911. Il a compris, mais il n'a pas répondu, du moins sur le mode poétique. Loin de me retourner un poème qui reprenne les mêmes rimes, comme il est d'usage, et qui leur fournisse un écho, il m'a dit gentiment, familièrement, ce premier soir où nous nous retrouvons comme au début de notre intimité amicale, chez moi, face à la nuit, qui, dans son noir, brave l'honnêteté, il m'a dit « C'était bien composé, votre petite lettre chinoise. On aurait dit des caractères accouplés se faisant vis-à-vis. J'ai saisi l'allusion historique. C'est bien elle qui m'a, ici, un verbe bien français que je me refuse à noter, purement par décence chinoise. » J'ai donc pressenti ou calculé avec exactitude. En termes précis et policiers, la Vierge s'est enfin accordée au prince, si l'on invertit les sexes dans cette proposition. C'est parfait. Mais lequel des deux dois-je féliciter? Elle, d'avoir choisi avec goût en dehors de sa race? Lui, d'avoir été choisi par elle? Le voici chef de la police secrète et amant officieux de celle qui ne doit point en avoir d'officiel. Ami du régent, titulaire d'une jeune concubine offerte par le dit régent, endossé de la veste de cheval. Bref, un jeune homme très arrivé avant même l'âge d'homme. Par conséquent, heureux? Il hoche la tête avec beaucoup de gravité. Non, j'ai des ennuis. Les provinces du Sud m'inquiètent. Et sur un ton de profonde confidence, il y a ce Sun Yat-sen. Là-dessus, je puis vraiment le consoler. Non, mon cher, ne vous alarmez pas, Sun Yat-sen. Vous n'y pensiez même pas l'autre jour quand je vous en ai parlé. Avouez-le, je vous ai mis à l'oreille cette puce cantonaise. Dangereux? Tenez, comme cela. Et de mon ongle du pouce droit, j'écrase sur celui du gauche un parasite imaginaire. Je termine en soufflant « Que la dynastie en fasse autant !» Et voilà l'insecte et sa démangeaison révolutionnaire passés. Et de nouveau, de bons jours de règne et de bonnes nuits d'amour. Au reste, vous ne m'avez jamais parlé des vôtres qu'en termes si poétiques qu'il m'a fallu inventer le réel. Pourtant, vous n'êtes pas là qu'en esprit. Du côté chair, que se passe-t-il? Il y a le protocole, répond sans rougir apparemment le jeune homme ainsi mis en cause. Je voudrais bien, sinon répéter ce protocole qui, dans ses gestes principaux, me semble remonter à la plus haute antiquité, du moins en connaître les nuances. Il s'y prête, et du meilleur gré du monde. Même, il devance ma première question. Comment je pénètre au palais? Mais sous un costume de princesse Manchoue. Ah! Que j'échange à l'intérieur des murailles pour un costume de mandarin de 4e classe. Ah! Tant mieux. Oui, je préfère vous imaginer homme. Et alors? Alors, le vieux Ma, vous savez, l'eunuque en titre, qui a succédé à Li Tianying, qui était l'amant de la vieille. Il vient lui-même me faire passer les autres portes jusqu'à la cour du palais de l'Est, où les eunuques de service aux appartements me reçoivent. Comment vous reçoivent-ils? Ils ont toujours un mot délicat. La dernière fois, ils m'ont dit « Notre maîtresse vous attendait spécialement ce soir. » Délicat! Je les paie bien. Savez-vous combien la nuit dernière m'a coûté? Non, je ne me hasarde plus aux comptabilités de ce genre. 500 taels. Pas plus? Il me semble que c'est beaucoup moins cher que la première nuit. Le tarif serait-il du mode décroissant ? Oui, j'avais d'abord payé 5 000. Pardon, 3 004, c'est noté. Je m'en souviens à une sapec près. J'en ai même le reçu, ajouterai-je, si, depuis qu'il a bien voulu m'en faire don, je ne le gardais en poche, honteux de ne pouvoir le déchiffrer. Depuis, j'ai fait mes conditions. J'entre pour beaucoup moins. J'ai passé un tong-tong avec un prince qui a grand désir d'entrer la nuit au palais. Nous payons pour l'ensemble. J'ai grand désir, moi, de revenir à des détails d'un genre plus poétique. Dans cette audience, qu'est-ce que l'on vous accorde ? Oh, je ne demande rien. Ce n'est pas là que l'on présente les propositions sérieuses. C'est au ministère de l'Intérieur. Ainsi, je viens d'être nommé, je l'arrête. Il y a, je crois, confusion entre différents ministères. Je me suis mal exprimé. Je voulais dire, est-ce que l'impératrice est aussi sévère que la jeune policière de Tianmenhuai, vous comprenez ? Enfin, ceci vous regarde. Mais René triomphant n'en est plus à me marchander des détails intérieurs. En peu de mots, je deviens spectateur de chacun des actes prévus. Je sais comment l'on s'étend sur le lit tiède, fait de briques creuses, adouci de coussins de soie, et qu'en hiver on chauffe par la bouche extérieure comme un four en y brûlant des herbes odorantes. Grâce à lui, je pénètre véritablement le milieu le plus intime du palais. Ce jeune homme est jeune, au point de donner, comme histoires amicales et amusantes, tout ce qu'un homme fait, dompteur de femmes, tient à cœur de garder jalousement pour lui. C'est ainsi que j'apprends sans détour qu'elle est moins grasse que ne la représentent ses portraits et que, même déshabillée, elle garde toujours ce petit triangle de soie qui pend entre les seins et le ventre et forme une ceinture un peu haute à la mode mandchoue. Le reste, tout le reste, m'est livré en peu de mots. Alors, pourquoi m'épuiser à épiloguer sans but sur le petit triangle de soie, peut-être préservateur hygiénique à l'encontre du froid ombilical, peut-être l'attribut d'un tiers ordre bouddhique, peu connu, et qui purifie tous les gestes, tous les plaisirs coupables du déduit. Il continue. Quand l'hiver arrive, le lit de briques est officiellement réchauffé. La chaleur se répand de là dans toutes les salles et les boiseries se mettent à sentir bon. On les a faites exprès en bois de santal et de cèdre. Alors, tout le palais se met à sentir bon. Ah, je vois, je sens, je crois, je suis un parfumé. Mais nous sommes en été. Qui vous a dit combien cela sentait bon ? Lui, très simplement. Elle. Il demeure un instant rêveur, éperdu, et cela lui va tout à fait bien. Savez-vous ce que nous disons lorsque nous nous couchons l'un près de l'autre ? Je souris, et à mon tour, délicatement, cela s'appelle en chinois les paroles de l'oreiller. Non, nous parlons tous deux d'autre chose, de n'importe quoi. Oh, je vous envie. Je vous félicite aussi de pouvoir ainsi demeurer seul avec elle. Seul ? Mais pas du tout. Et il s'étonne de ma question, de mon envie. Seul ? Et les eunuques, impossibles à écarter, et qui d'ailleurs comptent si peu. Et les servantes, les petites servantes empressées, dont parlait déjà, voici 3 000 années, le livre des Odes, et qui, depuis lors, ne cessent de rendre en tout lieu, de jour et de nuit, leur service méticuleux à la princesse, qu'elle ne quitte pas plus que les satellites, leurs étoiles maîtresses. Je le félicite de demeurer ainsi parfaitement littéraire et traditionnel. À sa place, je serais un peu moins à l'aise. Et pourtant, il m'a mené plus loin que jamais je ne me vanterais. Grâce à lui, je sais tout et bien des choses encore. Citation déjà historique. Plus de choses que lui, peut-être, car le voilà redevenu enfant. Il termine. Oh, j'ai eu très peur quand je me suis vu pour la première fois, à 4 heures du matin, dans le palais, où il est interdit d'accepter un homme, sauf le régent et les membres du Grand Conseil, sous peine de mort. De quelle mort? Qu'est-ce que l'on vous ferait en pareil cas si l'on vous découvrait? Rien. Il éclate de rire. Rien. Je suis un Européen. C'est vrai. Mais véritablement, il faut bien que cette nuit, ce soit lui-même qui me le rappelle. C'est vrai. Ceci explique et sauve tout. Il est européen. 1er octobre 1911. Il me faut un nouvel effort pour m'apercevoir combien ma vie pékinoise s'est à la fois augmentée et rétrécie. J'ai tout d'abord perdu les leçons et la visite de Maître Wang. S'est-il offusqué des attentions naturelles que je prodiguais à sa femme, ou de l'intérêt que je portais à son coprofesseur René Leys? Il a disparu, sans bruit, discrètement, comme il était venu, ayant prétexté dans une lettre signée de lui, mais dont je garantis beaucoup moins la traduction signée de moi, que l'un des princes, qui l'employait autrefois au ministère des Rites, exigeait qu'il reprît ses services à l'heure même de ma leçon. L'excuse est polie, archi-fausse, mais polie. Ce professeur me donne élégamment congé. En revanche, mon autre professeur redevient ponctuel, naturel, dans l'exercice de ses fonctions. Je m'étonne beaucoup moins de ce qu'il m'apprend ou me conte. Il a, dans tous ses mouvements en milieu chinois, l'aisance d'un poisson cyprin qui aurait vieilli 10 ans dans le même ou la même vase et qui n'a plus besoin de ses gros yeux ni de sa quadruple queue pour paître, voir et se conduire. J'ai maintenant mon siège fait. Ce jeune homme, bien que nubile et non défloré, ce jeune homme si bien doué quand il faut agir et parler en chinois, n'a pas plus éprouvé d'hésitation à se découvrir, par raison politique ou autre, une impératrice dans les bras, qu'il n'en eut l'autre nuit, quand, par malice ou aventure, au restaurant, le 6e fils du duc mongol, Goko, lui a mis dans les mains le violon public, qui traîne sur toutes les tables des maisons privées de Tianmenhuai. Ce qu'il en a fait, il a joué, tout simplement, naturellement. Je me sens ragaillardi et comblé. Pourquoi ce boy me remet-il à cette même heure, à la même heure, cette lettre ridicule, cette lettre parfaitement ignoble, et a jeté sans aucune réponse au panier. N'ayant point de panier dans mon bureau impeccablement chinois, je la roule et la lance rageusement à travers le ciel de ma cour, par-dessus le toit de l'écurie. Elle devait contenir à peu près ceci. « Monsieur, puisque vous vous intéressez au nommé Leys René et que vous avez l'avantage de le recevoir toutes les nuits à coucher dans votre immeuble, que vous sachiez qu'il m'a emprunté $50 que je ne peux pas rattraper. Quand je lui dis ça, il me dit qu'il me paiera quand on l'aura payé. Et moi, je vous dis qu'il n'est plus professeur à son école. C'est un sans le sou et sur le pavé. Veuillez me faire rembourser, et j'ai bien l'honneur d'être signé un ami prévoyant. Donc signé Jarignou. C'est bien fait. L'autographe anonyme fait désormais partie indigeste du fumier de mes chevaux. J'avais raison. Potin d'écurie. Ce voisin trop honnête homme devient désopilant. Ma vengeance sera de contempler son expression quand il apprendra de ma bouche, ou peut-être de ma main sur la face, que Renelaye ses marges pour 10 000 taels par mois au budget de la cour. Dès qu'il sera officiellement nommé fermier général de la Gabelle, à tant de milliers de dollars de transit par jour, car ce garçon est destiné aux plus hauts emplois, les Jarignoux feront assez bien de se tenir quoi et de changer à nouveau de pavillon pour couvrir leur viande envieuse. Après tout, si le pauvre voisin est en mal d'un peu d'argent... 3 octobre 1911. Ce matin, de grand matin, il fait encore presque nuit, car octobre commence et, les mois sont rentrés, le calendrier chinois annonce un retard étonnant dans les coutumes et la lumière. Renelaye est déjà là, sur son cheval peureux, toujours le même. Au moment de sauter en selle, le valet d'écurie, d'une main, me serre l'étrier et de l'autre me tend pieusement un chiffon couvert d'écritures européennes qu'il vient de tirer du crottin. Inconsciemment, je le déplie. Inconsciemment, je rougis et, comme pour m'excuser devant Leys, je mets précieusement le chiffon dans ma poche. C'est étonnant, mon cher, comme ces arrière-petits-fils de lettrés chinois, même domestiques, ont le respect de tout ce qui est écrit. Savez-vous ce que ce brave mafou vient de me remettre ? Une vieille note de linge sale. Il a raison, elle n'est pas encore payée. Elle le sera. Il a passé devant, sur son extraordinaire cheval agressif. Il s'enfonce dans l'aube grise. Manifestement, le ciel hésite entre le grand hiver, que je ne connais pas encore, et le plein été qui se clôt. Il prépare doucement cet automne prolongé, légendaire, seule saison bien assise entre les trois autres, éclatant comme des cataclysmes en explosions de vent, de chaleur ou de froid, ou procédant par grands assauts de poussière, de caléfaction ou de glace. Pour la première fois, je constate que Renelaye est doucement ému par la pénétration de l'heure et des choses alentour. Il respire longuement. Un poète dirait aussitôt qu'il soupire. Il regarde en haut, le ciel, puis devant lui, tout l'horizon, se retourne vers moi et me sourit. Vraiment, je ne l'ai jamais vu sourire ainsi. Il semble chercher quelque chose de très difficile à exprimer. Il dit enfin, pleurant presque de ses yeux sombres, devenus plus jeunes tout d'un coup, « Ah, il fait bien beau ce matin !» J'ai compris. Ce garçon est décidément amoureux. Il se confie. « Je n'ai pas suivi votre conseil. Vous m'aviez dit de refuser. » « Refusez quoi ? La veste jaune ? Oh, pas du tout !»« Non, la petite concubine offerte par le régent. »« Encore moins ! Mais vous y pensez encore ? C'est très grave. Vous allez vous attirer une bonne scène de jalousie. Vous ne pourrez pas vous cacher. Que va-t-elle bien penser de vous, l'autre ?» Et, de mes deux mains levées, je fais le geste qui désigne celle ou celui que le trône assoit. Il me répond avec simplicité. Je n'essaierai pas de me cacher. Elle a une contre-police secrète payée par elle et qui ne me lâche pas. Mais c'est elle qui m'a obligé d'accepter. Alors, qu'est-ce que vous faites ici à cheval, à courir les chemins et à parler sans agir ? C'est déjà fait. Enfin ! Oui, avant-hier, quand je vous ai quitté, ce n'est pas elle que je m'en allais rejoindre. Et son air est ravi à ce point que je ne dois dès lors plus rien ignorer. D'ailleurs, il m'explique. Elle aussi voulait m'offrir une concubine. Hein ? Elle aussi ? Mais oui, ça n'est pas convenable qu'un homme un peu bien placé n'ait pas de concubine. Il y a des jours du mois où la concubine est nécessaire. Ah oui, elle m'a présenté une suivante. Elle a compris que je ne la trouvais pas acceptable, puisque le régent m'en avait déjà réservé une autre. Alors, elle m'a permis de la recevoir. Je suis donc retourné au palais du régent et j'ai offert à ma concubine une voiture européenne. C'est tout ? Cette fois, elle n'a pas eu peur de moi. Je crois aussi que le régent lui avait fait des recommandations. J'admire beaucoup la poésie de cette défloration politique. Je ne puis m'aventurer à reconstituer au hasard les impressions de la jeune acceptée par ordre, mais je dois dire que celles de l'acceptant lui ont donné ce je ne sais quoi de victorieux et de sûr qui s'attache aux fermes conquêtes. Et longtemps, la promenade se prolonge, mielleuse comme un voyage de noces, alanguie comme un retour de confidence. Bon, encore un méfait de son cheval. Cette bête endiablée a peur de tous les trous. J'avoue que l'écart est admissible. Ici, à travers la campagne où nous trottons, elle a failli mettre le pied dans un puits. Toute la terre du Nord est ainsi. Elle donne l'eau et suce les vivants par des bouches sans lèvres, sans margelles. À ma surprise, il n'a point cravaché son cheval. Il dit, comme un enfant qui s'accuse, « Pardonnez-moi, c'est moi qui ai fait l'écart. J'ai eu peur. Que voulez-vous ? Je songe que 12 de mes meilleurs policiers sont déjà tombés là-dedans. » Alors, son visage change. L'heureuse expression de ses yeux fiers devient tragique. Il me surprend et, à brûle-pourpoint, « Voulez-vous me promettre d'exécuter mon testament ? Je vous confie ce que je voudrais qu'on fasse si je meurs. Vous prendrez dans ma maison les deux grandes vasques de porcelaine qu'il m'a données. Ensuite, vous direz que je suis tombé dans le canal ou que j'ai pris le transsibérien. Ensuite, vous irez à la banque chinoise, dont j'ai l'adresse dans la poche droite de mon veston, et vous... Oh, je l'interromps à temps. À quoi ceci a-t-il rapport ? C'est une dernière affaire que je veux tenter. Je vous l'ai dit, ce sont maintenant les sociétés secrètes qui deviennent redoutables. J'ai essayé de les faire surprendre. Elles ont tué mes 12 meilleurs agents. Alors, je vais assister moi-même à l'une de leurs réunions qui se tiennent toujours à Tianmenhuai. Il hésite. « Si vous ne me revoyez pas, vous me chercherez dans un puits. »« Non, je préfère ne pas le perdre. Tianmenhuai me connaît assez bien, désormais. » Et je propose. « Dites-moi, la partie que vous jouez est un peu lourde. Si je puis vous être utile... » Il réfléchit, se penche, me regarde en plein visage, et soudain, sa décision me paraît être celle d'un homme. « Je ne veux pas vous compromettre avec moi. »« Bien, mais si je tiens à être compromis ?» Je laisse passer un long moment de promenade. Nous voici revenus sous les remparts. Nous rentrons, de nous-mêmes, très sagement, au pas. Alors, brusquement, spontanément, je change d'allure et de ton. Tu veux risquer le tout pour le tout ? Tu m'as tutoyé en poésie chinoise. Laisse-moi te le rendre aujourd'hui. Écoute, n'oublie jamais, en Chine, que tu es européen. Il se redresse. Je sais bien, ma mère était française. Il faut que je me déguise en chinois. Déguise-toi en peau rouge ou en lapon, si cela peut te servir. Mais n'oublie pas qu'au moment juste où tu sentiras que ça va mal, tu te réserves la transformation à vue. Tu cries à ces gens « Je suis étranger ». Il sourit avec mélancolie. Ils auront peur, un peu, deux minutes, et ils m'étrangleront après. Oui, c'est plus grave. Où se passera l'incident? Il me confie, rapprochant la bouche de son cheval des oreilles du mien, dans la ruelle des eaux de mouton. Il n'y a aucune issue. C'est tout près du théâtre. Bien, je sais. Tu me feras le plaisir de tenir bon au moins deux minutes. Mais d'abord, tu lanceras un coup de sifflet. Je ne serai pas loin de toi, aux aguets, dans le restaurant d'en face. Je te jure qu'avant la deuxième minute, je serai avec toi, en complet veston et chapeau européen. Tes étrangleurs auront un second moment de surprise. Il écoute, il réfléchit. Il me tend la main droite. Entendu. Nous rentrons au pas, sans presser l'allure. 5 octobre 1911. En effet, je connais assez bien ce quartier, mais j'ai eu l'envie soudaine d'y aller faire une reconnaissance. Il faut être sûr de ses puits et de ses échappées. J'ai pris le plus sage de mes chevaux. Sous couvert de plaisanteries à l'européenne, j'entrerai tout monté dans les auberges et les maisons de jeu. Et je dessine maintenant de mémoire la marche du cavalier un peu ivre de vin de rose, sur le quadrillé compliqué et souvent très déformé, qui n'obéit point, comme les belles avenues de la ville tartare, au grand échiquier cardinal, nord, sud, est et occident. J'ai faim d'être ivre par habileté policière. Tout Européen est admis partout, s'il paie bien. On lui reconnaît le devoir d'intriguer. Il a droit à toutes les sympathies les plus accueillantes. Je fus partout bien accueilli. Au reste, afin de mieux jouer le jeu, je me suis véritablement enivré de vin de rose, ce qui permet toutes les licences, même poétiques. Je dois avouer ne pas en avoir connu d'autres. J'ai lancé mon cheval tête basse et reniflant sur des obstacles moins élevés que vraiment étriqués. Les seuils formés d'une planche de la maison chinoise, mais encadrés de deux montants de la largeur d'un homme nu. Mon cheval a passé, mes genoux aussi. Cet obstacle était précédé de quatre marches raides qu'il a fallu monter sabot après sabot. Mon cheval a monté ponctuellement comme un âne de cirque. Je dois, à ma honte chinoise, avouer que c'est au temple même de l'agriculture qu'il l'a appris. Mais le vénérable paysan, gardien des neuf marches impériales, riait d'aise sous le pourboire à peine reçu. Ce jour-là aussi, je devais être un peu ivre, comme il le fallait bien aujourd'hui. C'est dans cette attitude d'ébriété, à la fois supposée et acquise, que j'explorais ce faubourg interlope de Tsiengmenwai, avec tous ses carrefours ambigus et ses venelles particulièrement pékinoises, ses hutong à deux issues et d'autres en cul-de-sac, que plus décemment, le chinois de Peking dénomme « venelle morte ». Morte, c'est évident. Elles doivent toutes aboutir à un puits. Mauvaise impression. Comme s'il comprenait la chose, mon cheval sage s'est tout d'un coup mis à prendre des peurs inconsidérées. Ainsi, je n'ai pas pu le décider à franchir à reculons cet obstacle infime, une planche, qu'il venait de passer avec ses deux pieds de devant, puis avec ses deux pieds de croupe. il ignore évidemment les grands principes taoïstes, que tout peut se tourner bout pour bout, rien ne sera changé. Il n'était pas assez ivre, comme je l'étais, moi, par principe, comme je le suis encore, par fonction. Car tout ceci ressemble bel et bien à un enrôlement dans sa police secrète. J'ai déjà fouillé le terrain. Je me fouille à mon tour. Je me retourne les poches du cœur. Est-ce par curiosité, par ivresse de savoir davantage, ou peut-être, et plus noblement, par amitié pour ce garçon brave qui, soudain et pour la première fois devant moi, a eu peur, vraiment peur, à propos d'un puits. Là même, il n'a pas été ridicule. Mieux, c'est par désir de savoir ce qu'il est enfin, lui, et peut-être lui-même ne le sait-il pas encore. Sa fortune est extraordinaire. S'il tient bon un an de plus, et si j'ai le bonheur, fortuit également, de le tirer de quelque mauvais puits, la mienne n'est pas loin d'être comblée. Il me présente comme son meilleur ami à celle, le reste est affaire de protocole. Alors, je saurai ce qu'il me plaît de savoir. Alors, vivrai-je ce que je veux vivre? Ce sont là mes gages policiers, mes récompenses, mes triomphales vestes jaunes, à moi. Voilà bien de quoi m'enivrer pour tout de bon. Et maintenant, le sommeil pesant d'honneur a bien quelques droits, lui aussi.